Radio Prague, les informations.
Bienvenue à l'écoute, voici les titres. Javier Solana sera ce lundi à Prague. Secret bancaire, Karel Schwarzenberg est considéré par la presse suisse comme le dernier ami. Et puis sport, tennis, avec la Coupe Davis et la République tchèque qui bat la France à Ostrava. On rejoindra dans un instant notre envoyé spécial Guillaume Narguet. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, recevra lundi, le 9 mars, au palais Tchernine, le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, Javier Solana. La rencontre sera consacrée à la prochaine réunion informelle des ministres de l'Union européenne chargés des Affaires étrangères, qui se déroulera à Hluboká na Vltavou fin mars. La réunion sera également consacrée à la problématique des sommets. Et puis, toujours à propos de Karel Schwarzenberg, les Suisses s'inquiètent de la pression internationale sur le secret bancaire, mais l'hebdomadaire helvétique NZZ Am Sonntag estime que le président du Conseil des ministres européens, le tchèque Karel Schwarzenberg, est notre dernier ami, je cite, et un allié fidèle de la Suisse. Il détient un passeport suisse et se sent dans notre pays comme dans une seconde patrie. Issu d'une vieille famille aristocratique de Bohême, Karel Schwarzenberg s'est en effet réfugié en Suisse et en Autriche après avoir quitté très jeune la Tchécoslovaquie communiste avec ses parents. Les hasards de l'histoire en fait aujourd'hui un allié de poids dans un moment crucial. C'est ce qu'on peut lire dans la presse suisse de ce dimanche. Et puis les lions tchèques. Samedi soir avait lieu la cérémonie de remise de ces lions tchèques, équivalent des Césars français pour le cinéma national. Et c'est le film de Petr Zelenka, adapté du roman de Dostoïevski, Les frères Karamazov, qui a remporté les lions du meilleur film et de la meilleure réalisation. Le citoyen Havel, le documentaire de Pavel Koutetsky et Miroslav Janek, a été désigné meilleur documentaire de l'année. Le réalisateur slovaque Juraj Hertz a reçu un lion pour l'ensemble de sa carrière artistique. Et puis c'est fait, en sport, l'équipe tchèque a battu la France au premier tour de la Coupe Davis, c'est du tennis. Le premier tour se déroulait ce week-end à Ostrava et le point de la victoire a été remporté par Radek Štěpánek qui a battu Gilles Simon dimanche en 3-7 et on rejoint tout de suite Guillaume Narguet, notre envoyé spécial à Ostrava.
Avec la victoire en 3-7 ce dimanche de Radek Štěpánek contre Gilles Simon, les Tchèques ont donc battu les Français et se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe Davis où ils affronteront l'Argentine en juillet prochain à domicile, certainement à Ostrava. À égalité, un point partout vendredi soir à l'issue des deux premiers simples, les Tchèques avaient déjà fait un grand pas vers la qualification samedi après leur victoire dans le double. Ce dimanche, dans le premier match de simple, Radek Štěpánek a étouffé Gilles Simon avec son jeu agressif et s'est fréquemment monté au filet. À l'arrivée, Štěpánek s'est donc imposé en 3-7 en infligeant un 7-0 symbolique à son adversaire français dans le tie-break de la troisième et dernière manche. À Ostrava, pour Radio Prague, Guillaume Narguet.
Une bonne nouvelle pour le tennis tchèque donc, et on termine ce bulletin avec un mot sur la météo. Il devrait y avoir de belles éclaircies lundi, jour de fête des Františka en République tchèque, mais des averses aussi et quelques chutes de neige au-dessus de 1100 mètres. C'était Alexis Rosenzweig pour le bulletin. Dans un instant, la suite du programme en français de Radio Prague. Ah,
culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, on retrouve dans cette rubrique culture Joël Mitterrand, professeur et chercheur à l'université de Dijon en Bourgogne, dans le domaine de l'électronique et de l'image. Il est aussi chanteur, musicien dans un groupe baptisé les Cols Roulés, écrivain en herbe, mais aussi photographe, une activité créatrice qui est liée à ses travaux de recherche. Au Café Mlin à Prague, il expose ses figures éphémères, qui n'a jamais essayé de reconnaître des formes dans les nuages qui se meuvent au-dessus de nous. Joël Mitterrand capte ces moments poétiques qui peuvent être doux et paisibles comme le moutonnement d'un gros cumulus ou angoissants comme un ciel d'orage. Il a également travaillé sur des photos de drapés aux couleurs chaudes, peut-être plus inquiétantes que l'ensemble des nuages. Radio Prague est allée à la rencontre de Joël Mitterrand, mais avant de commencer, je vous propose tout de suite un extrait d'une de ses chansons.
Je suis un marginal, j'aime pas ce qui est banal. Je suis particulier, peut-être foyer. Je vis un peu au bord, je ne roule pas sur l'or. J'aime bien les différences, mais pas l'indifférence. n'aime pas mon regard quand tu me vois dans une gare. Tu n'aimes pas trop mes fringues, tu penses que je suis cradingue. Je suis un marginal, c'est ça ma martingale. Je suis un étranger à ton monde sans danger. T'aimes ta banalité, c'est ça ta liberté. De marque en marketing, ta voiture au parking. T'aimes pas les marginaux, pour toi sont des clodos. Des paumés sans abri, c'est rien qu'un tas d'ennui. Je suis un marginal, j'aime être original. Je suis très tolérant, mais pas bien dans le rang. Je couche dans ton garage, c'est là que je prends de l'âge. Je dors sous les étoiles, c'est là que je me poêle. Et si je fais la manche du samedi au dimanche, c'est pour aller chantant tout le reste du temps. Je suis un marginal, les autres y pichent que dalle. Je suis un peu sauvage, je fais plus que mon âge. Quand je crie à la lune que je n'ai plus de thunes, tu me lances une godasse et tu souhaites que je passe. Mais je suis résistant, je ne compte plus le temps. Endormi dans le froid, je suis encore le roi.
On se trouve dans le café Mline, qui se trouve sur l'île de Kampa. Je suis avec Joël Mitterrand, qui, entre autres activités, fait de la photo. Vous êtes également professeur. Vous nous direz peut-être plus tard exactement ce que vous enseignez. Et donc vous présentez ici une exposition photo qui s'appelle Figures éphémères. Alors un petit peu pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir ces figures éphémères, quelles sont-elles ?
Alors ces figures éphémères sont pour une bonne partie de l'exposition prise essentiellement dans des nuages qui par essence ne durent ou ne passent que quelques instants. Et mon idée principale est de faire un lien entre ces figures, ce qu'on peut y reconnaître, et mes activités de recherche qui sont orientées vers la reconnaissance automatique de formes dans les images pour des applications qui peuvent être industrielles ou médicales ou relativement larges au niveau de la société actuelle.
Concrètement, si vous pouviez me donner un exemple concret d'application, justement, pour qu'on puisse un petit peu savoir en quoi ça consiste.
Alors, des applications de localisation automatique de forme, vous en avez aujourd'hui dans pas mal d'appareils numériques, par exemple, qui sont capables de localiser les visages automatiquement pour pouvoir faire la mise au point automatiquement sur ces visages. Donc, c'est le type d'application, on va dire, ludique ou grand public. On a aussi des applications de contrôle qualité grâce à des prises d'images sur des produits, on va essayer de détecter automatiquement des défauts, qui sont des formes particulières, et on va essayer d'améliorer la qualité des produits comme ça. On a aussi des applications dans le domaine médical, où on peut analyser les mouvements des gens qui sont en rééducation, par exemple, et à partir de l'analyse de ces mouvements, on va adapter la rééducation pour qu'elle s'améliore et que donc les personnes redeviennent plus mobiles, par exemple.
D'accord, je comprends un peu mieux, je pense que les auditeurs aussi. Donc le visuel, c'est très important pour vous. Du coup, est-ce que le fait de faire de la photo, c'est quelque chose qui a toujours été important? Cette exposition un peu, est-ce que c'est la première d'abord?
Alors j'ai fait déjà quelques expositions en France, essentiellement en Bourgogne pour l'instant. Donc sur Dijon, là où j'enseigne et je fais de la recherche. Et puis aux alentours de Dijon. La photo, j'en fais depuis l'âge de 10-11 ans à peu près. J'ai commencé, comme pas mal d'amateurs, par un petit laboratoire à la maison et faire du développement en noir et blanc relativement classique. Et puis, il y a à peu près 2 ans, j'ai franchi le pas du numérique avec lequel je travaille dans mon domaine professionnel depuis longtemps. Donc, je l'ai franchi cette fois pour le côté plus artistique. Et ça m'a ouvert de nouveaux horizons. Donc, j'avais fait des expositions intitulé « Verre et lumière », qui consistait à prendre des photos d'objets en cristal, beaucoup de cristal de bohème, avec des orientations d'éclairage un petit peu particulières, qui donnaient des photos abstraites que l'on peut découvrir éventuellement sur mon site. Après ces travaux sur le verre et la lumière, j'ai souhaité, comme je le disais, donner plus de liens avec les activités de reconnaissance de forme. Et j'ai utilisé donc la possibilité du numérique au niveau cette fois des nuages d'une part et aussi des drapés qui sont un autre aspect de l'exposition.
Alors juste sur les nuages justement, c'est un côté quand même très poétique. Je sais que peut-être de nombreuses personnes comme moi petit ou même maintenant, regarder les nuages, j'y voyais des formes, des animaux, des. Moi, je, par exemple, je sais que j'y voyais des dieux grecs et romains. C'est un peu ça que vous avez voulu capter ?
Oui, exactement. C'est exactement ce type d'approche. Si on considère l'aspect un petit peu plus scientifique des choses, on peut dire que l'être humain est doué de facultés de reconnaissance extrêmement performantes pour pouvoir reconnaître ses amis, ses ennemis, les dangers éventuels qui l'entourent. Et ces performances peuvent aussi se retourner contre lui, entre guillemets, quand il perçoit des formes qui n'en sont pas. Ça peut être dans les nuages, ça peut être parfois dans l'eau. Et donc ici, effectivement, dans les nuages, j'ai choisi des formes qui sont plutôt poétiques. Je les ai pas toujours choisis. C'est aussi, il y a aussi une bonne part de chance, hein, puisqu'il faut, il faut être là au bon moment. Donc, on peut voir des formes qui sont comme un loup, un cheval, un singe ou une tête d'hippopotame, par exemple. Ces formes qui sont plutôt quand même paisibles et poétiques, et c'est vrai qu'ils vont bien avec le milieu de l'enfance. Et je pense qu'elles pourraient servir, par exemple, à illustrer des ouvrages pour enfants, pourquoi pas.
Vous-même, d'ailleurs, vous avez fait un ouvrage pour enfants, pour en parler tout à l'heure. Juste pour revenir sur les formes des nuages, il y a une petite, un petit clin d'œil quand même. Il y a un des nuages qui ressemble à la République tchèque, à la carte de la République tchèque.
Voilà, alors il se trouve que parmi les photos que j'avais, il y avait une photo d'éclaircie au milieu d'une petite tempête, on va dire. Donc l'éclaircie avait une forme qui se rapprochait très fortement de la République tchèque. Je l'ai aidé un tout petit peu. C'est la seule photo qui soit, on va dire, manipulée informatiquement pour augmenter la ressemblance avec la République tchèque. Et bon, c'était un petit clin d'œil par rapport à la situation actuelle, on va dire, de la crise et de la tempête qui tourne autour et pour l'instant qui n'entre pas en République tchèque.
Il faut de la patience, je suppose, pour prendre les nuages en photo.
Il faut de la patience, oui, et surtout des opportunités. Donc il faut avoir souvent le nez en l'air, donc ça peut être un petit peu dangereux, mais on fait attention quand même. Non, je pense que j'ai un regard, disons, qui me permet de sélectionner peut-être relativement facilement ce qui me paraît intéressant. Je pense qu'on ne lève pas assez le nez peut-être pour regarder. Pour donner un simple exemple, la photo de la tête de loup, je l'ai prise au zoo de Prague. Et donc tout le monde était en train de photographier les animaux au sol. Et j'étais le seul à photographier le ciel là-bas. Voilà.
Donc ces animaux dont vous disiez justement qu'ils sont un peu du domaine de l'enfance. Vous disiez, donc on disait également que vous avez fait un livre voilà, qui s'appelle Le Bouquet, un livre pour enfants. Vous avez aussi d'autres activités, vous chantez, vous faites de la musique, vous êtes donc professeur, vous avez multiples activités, vous êtes pluridisciplinaire. Comment est-ce que vous gérez un petit peu toutes ces activités multiples ?
La gestion n'est pas évidente, d'autant plus que je le fais sur deux sites, puisque je fais mon travail d'enseignement et de recherche à Dijon, en Bourgogne. Mes activités annexes, en ce qui concerne la photo, ce sont des parties de nuit qui y passent pour le traitement. Je saisis toutes les occasions que je peux au niveau des vacances, par exemple, pour le faire. Et au niveau de la musique, c'est la même chose. J'essaye de le faire. Je le fais très ponctuellement. J'ai fait quelques concerts, mais ça reste une activité qui est quand même secondaire par rapport à mes activités professionnelles.
Ces concerts, vous les avez faits en France, en République tchèque ?
Alors, on a donné quelques concerts à Dijon et aux alentours, à Paris, au Théâtre du Lucernaire, par exemple, et le concert principal qu'on a fait est à Český Krumlov, au Festival International de Musique en 2006. C'était une expérience fantastique pour moi.
Et quelques concerts, là, prévus dans les temps à venir, ou, comme vous disiez, ça reste pour l'instant un petit peu secondaire ?
Pour l'instant, on a seulement un concert prévu à Dijon au mois de juillet, et c'est vrai que je n'ai pas recherché d'autres concerts. Le travail principal maintenant, puisqu'on a sorti deux disques, dont le deuxième justement qui est l'enregistrement du concert de Český Krumlov, le travail maintenant est la recherche des concerts, et ça j'avoue que j'ai trop peu de temps à consacrer à ça pour en décrocher suffisamment, mais je suis toujours tout de même à la recherche d'opportunités.
Alors cette exposition Les Figures Éphémères est là pour quelques temps au Café Emeline, hein. Vous nous redirez juste la date de fin. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours pour l'instant, justement, de photos et d'expositions? Est-ce que vous avez déjà quelque chose en tête?
Oui, l'exposition sur ce thème ou sur le thème du verre et lumière, ce sera défini prochainement, va être bientôt transporté du côté de Jihlava, à côté de Jihlava. Pour l'instant, c'est le seul autre point certain. Je vais essayer ensuite du côté de Paris. Ça, c'est une autre histoire. Et pourquoi pas à Prague, dans d'autres endroits.
j'ai rencontré un chewing-gum psychopathe. Il m'a collé aux pattes dans le couloir du métro. J'y ai crié, casse-toi de mes sandales, ou je fais un scandale, tu es un peu de trop. Il m'a répondu, occupe-toi de ton. Il m'a répondu, occupe-toi de ton. Tu es dans de beaux draps, et il y a un sparadrap qui est collé par là, ne t'occupe pas de moi.
C'est la fin de la rubrique Culture sans frontières. Mon invité aujourd'hui était Joël Mitterrand, professeur et chercheur à l'université de Dijon en Bourgogne, mais également chanteur, musicien et photographe. Il nous présentait ses photographies de nuages et de drapés, intitulées « Figures éphémères ». L'exposition s'achèvera fin mars. Cette rubrique a été accompagnée par les compositions de Joël Mitterrand. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Il y a un sparadrap qui est collé par là. Va t'occuper de ça. J'ai bien couru chez une infirmière, lui montrer mon derrière pour qu'elle s'occupe de moi. Elle a répondu, occupe-toi de mon. Elle a répondu, occupe-toi de mon. Viens dans mes beaux draps, je t'enlève ton sparadrap. Il n'y a pas de quoi te remuer comme ça. J'y ai répondu, et le chewing-gum. Elle m'a répondu, quel chewing-gum. Je lui ai raconté le chewing-gum psychopathe qui m'a collé aux pattes dans le couloir du métro. Elle m'a crié, casse-toi de mon plumard, j'en ai vraiment trop marre, tu es un peu ballot. Je suis rentré, mon chewing-gum sous les pattes, je suis revenu, mon sparadrap. Je suis rentré, mon chewing-gum sous les pattes, je suis revenu, mon sparadrap.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc, Alain Slivinsky.
Dans cette édition de notre guide touristique cette semaine, nous allons nous rendre en Bohême du Nord, plus exactement à Jablonec nad Nisou. Cette petite ville pourrait être qualifiée de capitale de la bijouterie, un secteur économique qui ne vit pas des jours heureux en ce moment avec la crise financière mondiale. Mais ce n'est pas de cela que nous parlerons, mais d'une spécialité tchèque très ancienne et très appréciée à l'étranger. Il s'agit des bijoux en verre noir. Les bijoux en verre noir ont une longue tradition en Bohême et étaient très à la mode jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. Une grande panoplie de bijoux en verre noir avait même été commandée par la reine d'Angleterre, Victoria, qui, après la mort de son époux, ne portait plus que du noir, donc aussi ses bijoux devaient être noirs. Pourtant, cela fait plus d'un demi-siècle qu'ils ne sont plus fabriqués en série. En effet, la production est compliquée et revient trop cher. Actuellement, dans le monde, il n'y a probablement plus que 3 ou 4 bijoutiers qui les fabriquent. Parmi eux, il y a aussi Vladimir Svatogn, qui habite non loin de la ville de Jablonec nad Nisou, plus exactement à Hradec nad Nisou. Bijoutier de formation, après avoir découvert de petits stocks de ce qu'on appelle des cailloux de verre noir, il s'est spécialisé dans la fabrication de répliques ou d'originaux en verre noir. Il nous a expliqué que ce métier artisanal faisait souvent vivre des familles entières en Bohême du Nord, où la tradition de la bijouterie existe depuis des siècles. Le plus souvent, c'était les enfants qui produisaient les petits morceaux de verre, les fameux cailloux. Il fallait être très habile, car les cailloux sont de très petites dimensions. Il fallait, en plus, enchâsser les cailloux dans des broches en métal, afin que les bijoux puissent ensuite être assemblés en utilisant la soudure. Le problème pour Vladimir Svatogn a été tout d'abord de trouver de la matière première, les cailloux de verre noir que personne ne fabrique plus aujourd'hui. Écoutons comment il s'est débrouillé.
J'étais sebraný po půdách, taky jsme měli pytel, který byl za...
Je les ai trouvés en cherchant dans les greniers des vieilles maisons. Nous avons même trouvé un sac qui était enterré derrière un tas de charbon. C'était assez intéressant, certaines fois, de découvrir cette matière première un peu partout.
Il faut dire que la région de Jablonec nad Nisou faisait partie des anciennes Sudètes, une région qui a vécu une histoire des plus tumultueuses au siècle dernier. Après la Deuxième Guerre mondiale, les habitants d'origine allemande ont été déplacés de force et beaucoup de maisons sont restées vides ou ont été en partie rasées. C'est dans celle-ci, mais aussi dans d'autres qui sont habitées aujourd'hui, que Vladimir Svatogne a fait ses découvertes. Aujourd'hui, Vladimir Svatogne fabrique de petites collections de copies ou répliques. Il aime bien se lancer aussi dans la création de ses propres bijoux. Est-ce que c'est difficile ? Réponse du bijoutier.
Les cailloux, si vous n'avez pas le talent, vous ne ferez rien avec eux. Ce que je fais, moi, je jette d'abord les cailloux sur la table et je commence à réfléchir. Ou bien, j'ai déjà une idée et après, je peux commencer à travailler.
De nos jours, les bijoux en verre noir sont très recherchés et s'exportent très bien, surtout au Japon. L'Afrique noire est aussi un très bon client qui demande surtout des bijoux représentant des motifs d'animaux. Où peut-on trouver autrement les bijoux en verre noir anciens ou fabriqués par Vladimir Svatogne ? Il suffit de vous rendre au musée du verre et de la bijouterie que vous trouverez dans la ville de Jablonec nad Nisou, dont nous avons parlé au début de notre guide. Nous allons d'ailleurs vous le présenter tout de suite. Un peu d'histoire pour commencer. Le musée du verre et de la bijouterie de Jablonec nad Nisou est assez ancien, puisqu'il a été fondé en 1904 avec l'ouverture de la première exposition permanente. Le bâtiment, qui a été construit pour les besoins du musée, a été inauguré en 1911, dans la rue Shkolny Ulitse. Après la guerre, en 1949, le musée a déménagé dans la rue Jiraskova Ulitse, où il se trouve toujours aujourd'hui. À ses débuts, l'institution portait le nom de Musée de l'industrie artistique. Depuis 1961, année où il est passé sous l'administration du département de Jablonec nad Nisou, il est spécialisé dans l'étude de l'histoire du verre et de la bijouterie et porte le nom de Musée du verre et de la bijouterie. Entre 2001 et 2004, le musée a subi une reconstruction lourde et le plus important est certainement qu'à partir du 1er janvier 2003, il est passé sous l'administration du ministère de la Culture de la République tchèque. C'est le 23 septembre 2004 que le musée du verre et de la bijouterie a été de nouveau inauguré en présence du président de la République Václav Klaus et d'autres personnalités. Si vous aimez le verre sous toutes ses formes et les bijoux, nous vous recommandons vraiment d'aller faire une petite excursion à Jablonec nad Nisou, situé pas trop loin, au nord de la capitale Prague. Le musée du verre et de la bijouterie nous offre deux expositions permanentes, le jardin magique et le monde magique de la bijouterie. La première exposition est consacrée au verre et à son histoire pendant 7 siècles de sa tradition en Bohême du Nord. Elle est installée dans 3 salles du 5e étage du bâtiment principal et se présente vraiment sous la forme d'un jardin à la française. La seconde exposition présente tout le développement de l'industrie de la bijouterie de Jablonec nad Nisou, depuis ses débuts jusqu'à l'époque contemporaine. Elle est accompagnée de films et de vidéos. Elle s'étend sur 320 mètres carrés et en été, le visiteur peut aussi passer d'agréables moments sur la terrasse. Et les fameux bijoux en verre noir ? Vous pouvez les trouver si vous ouvrez un des nombreux tiroirs des armoires qui se trouvent dans les salles d'exposition. Si vous avez un peu de chance, vous pourrez même rencontrer Vladimir Svatogne, qui est employé au musée. Et c'est ainsi que nous refermons notre guide touristique de cette semaine sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on